Tov, mes amis, Boker Tov, et ça y est, cette journée d'études ne pouvait pas mieux commencer puisque, enfin, on peut dire qu'Am Israël est ensemble. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça y est, les Ashkenazim se sont mis au Slichot, eux aussi. Donc, comme ça, on est tous fatigués et c'est très bien. Au moins, on ne pourra pas avoir d'excuses. Donc, voilà, on est dans la dernière ligne droite de Rosh Hashanah. Dans une semaine, dimanche soir prochain, c'est Rosh Hashanah. Et donc, évidemment, eh bien, il va falloir qu'on se pose un petit peu sur eh bien, la signification de cette fête. Et non, aujourd'hui, nous n'allons pas parler, j'allais dire, de mystique. Aujourd'hui, nous allons parler de Tachlès. Peut-être qu'après, on arrivera à quelque chose de plus important. Mais on va d'abord parler du Tachlès, parce que c'est ce qui manque tellement à la majorité d'entre nous. De savoir tout simplement répondre à la question « Mais pourquoi ?» Voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de répondre à la question « Mais pourquoi Rosh Hashanah ?» Pourquoi je vous fais cette introduction ? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut être très conscient et très honnête que on a tendance, et plus on est religieux et plus on a cette tendance, à balayer d'un revers de la main les questions qui fâchent. Et oui, on a tellement de connaissances, on a tellement d'habitudes que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui ne connaît pas ou quelqu'un qui s'interroge, eh ben on a du mal à lui répondre. C'est quand même tellement illogique d'appeler cette fête Rosh Hashanah alors qu'elle s'appelle dans la Torah le premier jour du septième mois. Moi, j'étais au GAN, avant même le CP, avant la Kita Aleph, on m'a appris qu'on commençait à compter par 1 et pas par 7. Comment est-ce que quelque chose qui est appelé le 7e, tu dis c'est le début ? C'est un problème. Comment est-ce qu'on peut honnêtement parler de Rosh Hashanah comme étant le jour de la création du monde, de l'homme, alors que dans les Tfilot et dans le Kiddush de Rosh Hashanah, on va dire en souvenir de la sortie d'Égypte. Zecher l'Itziat Mitzrayim. Vous allez me dire un revers de la main. Ah oui, mais on dit ça pour toutes les fêtes. Non, ce n'est pas vrai. À Hanouka, on ne dit pas en souvenir de la sortie d'Égypte. À Yom HaAtzmaout, on ne dit pas en souvenir de la sortie d'Égypte. On ne peut pas balayer les choses d'un revers de la main. La Torah, c'est sérieux. Les textes sont sérieux. Ils veulent dire quelque chose. Et donc, la question que j'aimerais ouvrir pour notre étude, c'est « Mais qu'est-ce qu'on fête, Ribono Shel Olam, à Rosh Hashanah ?» Je sais que vous avez déjà plein de réponses à me donner. Et je sais que ces réponses, elles vont tourner autour de la création du monde et autour d'Avraham Avinu et la Akedat Yitzhak. Mais ce sont des réponses qui sont irrecevables. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'existe pas de fête dans le judaïsme qui soit basée sur un événement métaphysique ou sur un événement qui touche l'un de nos patriarches, voire même les trois. Une fête juive, c'est un événement historique qui a touché Am Israël. S'il n'y a pas d'événement historique qui a touché Am Israël, il n'y a pas de fête juive. Prenons la fête de Tou Bichvat, que j'adore. Et moi, j'en fais tout un plat à Tou Bichvat. Tout un plat de fruits. Et les Mekoubalim et le Rav Ben Arosh nous a fait des shiurim extraordinaires sur la puissance de Tou Bichvat. Mais ceci étant, si quelqu'un ne veut pas manger de fruits à Tou Bichvat et ne veut rien faire de particulier à Tou Bichvat, moutard. Il n'a rien transgressé du tout. Ce n'est pas du tout obligatoire de faire Tou Bichvat. Parce que même si nous nous savons, et la Kabbalah nous enseigne à quel point c'est un jour important, tant qu'il n'y a pas eu un événement historique, mesurable, qui a touché le peuple juif, eh bien, ça n'est pas une fête. Je vais vous donner un autre exemple, avant de passer dans les oui fêtes. D'année en année, il y a de plus en plus de gens qui vont participer à des soirées pour le 19 qui se lève. Yud Tet qui se lève. nos amis Chabad, si vous nous entendez, le jour où l'Admon Hazaken est sorti de prison. Pourquoi pas ? C'est un jour très important, mais c'est un événement qui n'est pas un événement qui a touché Klal Israël. Donc, Yotet qui se lève, c'est sympathique, mais ce n'est pas une fête obligatoire. À l'inverse, lorsque vous regardez dans le livre Kol HaTor de Rabbi Israël et Rabbi Hillel Mishklov, les élèves du Gaon de Vilna, qui vont, en fait, c'est un journal de ce qu'ils font lorsqu'ils arrivent en Israël. Ils racontent que le Gaon de Vilna leur a demandé de reconstruire la synagogue de la Chorva. Mais attention, l'inauguration doit être le 5 du mois de Iyar. Pourquoi ? Parce que le Gaon de Vilna, par son étude profonde de la Kabbalah, a dit que c'était le jour de la Géoula. Alors, ils l'ont fait. Et ils écrivent qu'ils ont ressenti quelque chose de très fort et tout ça. Mais l'année suivante, peut-être qu'ils ont marqué le coup, mais ce n'est pas devenu un jour de fête. Le 5 Iyar est resté le 5 Iyar. Certains l'ont commémoré, d'autres pas. Il va falloir attendre 250 ans pour que le 5 Iyar devienne le jour de la création de l'indépendance de l'État d'Israël. Et suite à cet événement historique qui touche à Israël, eh bien, le grand rabbinat d'Israël va décréter Yom HaAtzmaut comme étant une fête. Il y a eu un événement historique, donc il y a une fête. D'accord ? Et donc, lorsqu'on va là-dedans, eh bien, chaque fête du peuple juif doit être rattachée à un événement. Lorsqu'on parle de Pessah, l'événement est clair. Nous fêtons la sortie du peuple juif d'Égypte. Lorsqu'on parle de Shavuot, ben qu'est-ce qu'on fête ? On a l'habitude de dire le don de la Torah. Mais vous savez bien que non. On n'a pas reçu la Torah à Shavuot, Rabotai. Le jour de Shavuot, on a reçu zéro Torah dans la main. Qu'est-ce qu'on fête à Shavuot ? Eh bien, on fête le dévoilement divin au peuple juif. Le mont Sinaï. Ah, c'est énorme. C'est énorme, c'est un événement incroyable. Dieu nous a parlé, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on fête à Hanouka ? Ben, en fait, la victoire contre les Grecs. Qu'est-ce qu'on fête à Pourim ? Le fait que nous ne sommes pas laissés faire et que nous avons réussi à battre nos ennemis. Qu'est-ce qu'on fête à Soukhot ? Hein, qu'est-ce qu'on fête à Soukhot, Rabotai ? Non, parce que c'est dans pas très longtemps. La fête des cabanes. Mais quel rapport les cabanes ? Ceux qui sont en train de me répondre avec leur micro fermé et qui disent « c'est les Anané Kavod ». Je te dis « mais attends, mais mon ami, les Anané Kavod, on les a reçus dès qu'on est sortis d'Égypte, à Pessah. » Si tu me dis « c'est parce que quand on est sorti d'Égypte, on a été à un endroit qui s'appelle Soukhot. » Mais oui, mais ça, c'était à Pessah. Rabbi Eliezer Rokar nous dit tout simplement, le 15 Tishrei, c'était la guerre contre Sichon Melech Haemori. La première conquête en terre d'Israël. Le 15 Tishrei. Et quel rapport avec les Soukhot ? Eh bien, nous avons appris dans le livre de Shmuel que lorsque Israël sort en guerre, il dort dans des Soukhot. Donc, le 15 Tishrei, Soukhot, c'est la fête de Soukhot. Parce que nous avons été dans les Soukhot. Et donc, les amis, ma question, vous la voyez venir. Qu'est-ce qu'on fête à Rosh Hashanah ? Voilà ma question. Qu'est-ce qu'on fête à Rosh Hashanah ? Si vous me dites la création du monde, si vous me dites Akedat Yitzhak, ça ne va pas. Ce ne sont pas des événements qui ont touché Klal Israël. Et puis, on a d'autres problèmes. Si vous me dites que c'est la création du monde, Rabotai, on ne peut pas baser une fête sur une marloquette. Eh oui, car la création du monde en Tishrei, c'est bel et bien une marloquette. il y a la dispute entre Rabbi Eliezer, qui pense que le monde a été créé en Tishrei, et Rabbi Yoshua, qui pense que le monde a été créé en Nissan. Et la loi juive, alors voilà, la création d'Adam Harishon, c'est comme la création du monde. Mais c'est une marloquette. Est-ce que ça s'est passé en Tishrei ou en Nissan? Rabbi Eliezer pense en Tishrei, Rabbi Yoshua pense en Nissan. Et excusez-moi, mais Rabbi Yoshua, il faisait aussi Rosh Hashanah. Et il disait certainement pas à ses enfants sans souvenir de la création du monde, puisque lui, il pense que c'est en Nissan la création du monde. Ah, alors que faire? La loi juive, Bereshit, c'est toujours le même truc. Mais ça ne peut pas être ça. Parce que, encore une fois, non seulement c'est une marloquette, mais la loi juive donne raison à Rabbi Yoshua, qui dit que le monde a été créé en Nissan. Que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, c'est en Nissan. Ça veut dire quoi, la loi juive, elle dit ça? Il y a une bracha qu'on dit une fois tous les 28 ans. Birkat Achama. C'est une bracha où on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir créé le soleil. Alors pourquoi tous les 28 ans? Parce que c'est genre, c'est pas vrai, mais genre le temps que met le soleil pour faire son cycle dans la galaxie. Bon, c'est pas vrai, mais on s'en fiche. Le problème est quoi? Il est que dans la halakha, on va faire Birkat Achama en Nissan. Pour être exact, le 4 Nissan. Parce qu'on pense que dans la halakha, le monde a été créé en Nissan. Le soleil, le quatrième jour, boum, le 4 Nissan. Donc, rien à voir avec Tishrei. C'est donc un problème. On ne va quand même pas baser notre fête sur une réalité qui n'est pas la bonne. Et donc, tous ceux qui m'ont dit « Bereshit, Adam Harishon, la création du monde », ça ne va pas. Et puis, je vais vous dire mieux que ça. Nous avons déjà une fête pour symboliser la création du monde. Comment s'appelle cette fête? Shabbat. Ayom Arat Olam. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas la création du monde. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Shabbat, qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? Zecher le Maase Bereshit. En souvenir de la création du monde. Donc, nous avons une fête qui vient nous symboliser la création du monde. Ça s'appelle Shabbat. 52 fois par an. C'est pas mal. Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? Eh bien, les amis, dans la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils vont chacun énoncer une liste d'événements. Là où Rabbi Eliezer pense que c'est en Tishrei, Rabbi Yoshua pense que c'est en Nissan. Mais il y a un événement où les deux sont d'accord que ça s'est passé à Rosh Hashanah et où les deux sont d'accord que c'est un événement qui a touché Klal Israël. C'est quoi? Parce que les deux vont dire que « Berosh Hashanah yatsa Yosef mi bet ha'asurim » que Yosef a été libéré de prison. Mais Yosef qui est libéré de prison, ce n'est pas un événement qui a touché le peuple juif, ça a touché Yosef. À Rosh Hashanah, nous disent les deux, Batla avoda me'avotenu b'mitzrayim. L'esclavage de nos ancêtres en Égypte a pris fin. Zéou, on n'est pas sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est à Pessah, bien sûr. Mais à Rosh Hashanah, 6 mois auparavant, ou alors 1 an et demi auparavant, c'est une marloquette entre le Ramban et le Sforno, mais venez, on ne rentre pas là-dedans. Avant la sortie d'Égypte, nous avons reçu l'émancipation. Nous avons cessé d'être esclaves. Nous sommes redevenus des citoyens égyptiens de confession israélite. Toute ressemblance avec un cas tricolore serait purement fortuit et involontaire. Mais Rosh Hashanah, c'est le moment où chaque individu du peuple juif a retrouvé sa liberté. Be Rosh Hashanah batla avoda ma'avotenu b'mitzrayim. Si donc je devais donner maintenant aujourd'hui un titre à la fête de Rosh Hashanah, ce serait la fête de la liberté. Vous allez me dire, oui, mais Yom Cherutenu, c'est ce qu'on dit à Pessah. Oui, mais Pessah, c'est le Cherut du peuple. Là, on ne parle pas de la nation, on parle de l'individu. Pharaon nous a libérés en tant qu'individu. Am Israël était toujours en Égypte, mais nous étions libres. Libres de choisir, par exemple, de quoi ? Eh bien, choisir de m'attacher à Moshe et à sortir d'Égypte, ou pas. Vous savez, lorsqu'on arrive à Pessah et qu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, l'histoire de la Haggadah, et qu'on raconte à quel point les Égyptiens étaient méchants, bah, faut se poser la question, alors s'ils étaient si méchants que ça, pourquoi personne ne part ? Pourquoi seulement 20% du peuple juif sort d'Égypte ? Pourquoi 80% restent en Égypte ? Si c'était si terrible ? Eh bien justement, parce que ce n'était pas si terrible. Parce que ça avait cessé d'être terrible. Nous avons reçu la liberté individuelle et on a recommencé à faire du business, et on a recommencé à avoir notre petit magasin, et on a commencé à s'investir, on a commencé à être dedans, et tout ce que tu veux. Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté individuelle. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne sors pas d'Égypte. Hein ? Alors, on va parler de Yom HaDin après, deux secondes. Pour l'instant, on est encore dans le processus. Bekitsour, donc, évidemment, moi, je ne suis pas sorti d'Égypte. C'est quoi la liberté ? Moi, je suis déjà libre. Nachon. Mais nous dira le Rav Kook dans son livre Orot HaTeshuva qu'il y a un autre esclavage. Et cet esclavage, il est vrai encore dans ma génération. Et il s'appelle At Achetit, l'esclavage de la faute. C'est quoi l'esclavage de la faute ? L'esclavage du style « c'est plus fort que moi ». Je suis obligé de fauter. Tout le monde faute, enfin, tu comprends. Elle m'a la assote. Et une fois que j'ai fauté, je suis tellement dans mes fautes que je n'arrive pas à me sortir de là. Nous dit le Rav Kook, c'est avdout. Tu n'es pas, Aleph, obligé de fauter. Et deuxièmement, si tu as fauté, tu n'es pas obligé de rester là-bas. Rosh Hashanah, c'est la liberté. La liberté de chaque individu. D'ailleurs, allons un tout petit peu plus en avant. Maintenant qu'on a compris que Rosh Hashanah, c'était la fête de la liberté individuelle, eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a à Rosh Hashanah un ustensile qui est mis à l'honneur. Quel est cet ustensile, évidemment ? Eh oui, le chauffard, bien sûr. Mais Rabotai, le chauffard, vous savez que c'est marqué nulle part dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah ? C'est marqué nulle part qu'il faut sonner du chauffard Rosh Hashanah. Il y a marqué dans la Torah, Yom Teruah Yelachem. Il y a même marqué, Zichron Teruah Yelachem. Mais les amis, Leharia, Teruah vient du verbe Leharia. Ça ne veut pas dire sonner du chauffard. Ça veut dire émettre un son. Ce son peut venir du chauffard. Si c'est la liberté individuelle, en quoi c'est un événement national ? Ah, eh bien tout simplement, parce que Pharaon a libéré tous les membres du peuple d'Israël. Il ne les a pas libérés en tant que nation, mais il a libéré en tant que chaque individu de la nation. Donc ça ne suffit pas, évidemment. Ça ne suffit pas entre parenthèses, c'est l'une des raisons pour laquelle on ne dira pas le Hallel à Rosh Hashanah. Parce que, bien qu'étant devenu libre au niveau individuel, la nation, la malchoute d'Israël ne s'est pas encore relevée. D'accord ? Quoi qu'il en soit, je reviens à mon chauffard. Il y a marqué Yom Teruah, mais Léaria, ça peut être avec la bouche. Vaishma Yoshua et Kolaam Bere'o. Lorsque Yoshua descend du Harsinaï avec Moshe, il entend les liesses du peuple juif à cause du veau d'or. Et les gens émettent des sons de la bouche. Ouah ! Léaria ne veut pas être forcément dit avec un chauffard. Ah, tikou bachodesh shofar, bakese le yom chagenu, kichok le Israël hu, mishpat le Elohe Yaakov. D'abord, ça ne veut pas dire qu'il faut sonner du shofar au Rosh Hashanah. De là, on va apprendre dans le Talmud que c'est quoi la fête où la lune, elle est mitkassa. On va dire c'est Rosh Hashanah, parce que c'est le seul fête qui est au début de du mois où la lune, elle est cachée. Mais de toute façon, j'ai dit, c'est marqué nulle part dans la Torah. Vous m'amenez un verset des Nevi'im. Ça ne marche pas. J'ai dit dans la Torah, ce n'est pas marqué. Or, comme vous le savez, nous n'apprenons pas de halachot du Nar. On les apprend de la Torah. Donc, dans la Torah, on nous dit Yom Teruah. Il y a un autre événement dans lequel la Torah nous dit il faut sonner du shofar. Et du shofar d'Afka, c'est-à-dire pas des trompettes, du shofar. Exactement. Yom HaKippurim Shel Yovel. Le jour du Yovel, donc c'est quoi le Yovel ? C'était le jubilé. Tous les 50 ans, après 7 Shemitot, eh bien c'est le jour du Yovel. Et là-bas, dans la Torah, on va nous dire clairement « Va'avartem shofar bechol artsechem bachodesh hashevi » Et vous ferez passer un shofar, vous sonnerez du shofar dans ce Yom HaKippurim du Yovel, le septième mois. La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, la page 34, va nous dire « Ah, moi je connais une Gzera Shava. » C'est quoi une Gzera Shava ? C'est une tradition que nous avons pour faire corréler deux versets qui utilisent les mêmes mots. Et donc on nous dit « Dans le Yovel, » on nous parle de sonner du shofar et on nous dit que c'est le septième mois. À Rosh Hashanah, on nous dit d'émettre un son le septième mois. Ah, puisqu'il y a marqué septième mois là, et que là-bas il y a marqué shofar, alors ça veut dire que notre septième mois à nous, Rosh Hashanah, c'est aussi avec du shofar. Et de là, on apprend, Mixer HaShava, qu'on va sonner du shofar à Rosh Hashanah. Mais ça veut dire que l'origine du shofar de Rosh Hashanah, c'est le shofar du Yovel. Et bien, ça tombe très bien parce que à quoi servait le son du shofar du Yovel ? Alachiquement parlant, il servait à la libération des esclaves. Et vous comprenez à quel point c'est lié avec Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est la fête où nous avons été libérés de l'esclavage en Égypte. Donc, le shofar de Rosh Hashanah sert à nous libérer. Et c'est la raison pour laquelle les premières sonneries du shofar, vous savez, à Rosh Hashanah, il y a trois séries de sonneries de shofar. Il y a la première série avant la tefila de Moussaf, la deuxième série durant la tefila de Moussaf et la troisième série dans le Kaddish juste avant la fin de la prière. Eh bien, la première série s'appelle dans la halakha les sonneries assises. Ça veut dire qu'il faut être assis. Et pourquoi il faut être assis ? Eh bien, parce que tu es un esclave. Tu ne peux pas encore te tenir debout. Comme on dit en hébreu, la mode al-shelcha. Tu ne peux pas encore être fier et porteur de tes idées, tu es esclave. Et donc, eh bien, on va te dire, ah ben, d'abord tu es assis, et les premières sonneries du shofar viennent te permettre de... Une fois qu'on a compris cela et que donc on a fait ces premières sonneries, ça y est, je suis libre. C'est bon. Je me lève. Et maintenant que je suis libre et que je me lève, je peux m'occuper de la deuxième phase de Rosh Hashanah. Quelle est la deuxième phase de Rosh Hashanah ? Eh bien, les amis, c'est très simple. Maintenant que j'ai été libéré, maintenant que je sais que je suis libre, eh bien, je peux choisir quel est mon patron. Je peux choisir de me resoumettre à Pharaon, ou alors je peux choisir de me soumettre à Akadosh Baruch. Comprenez-moi bien, tant que je suis esclave de Pharaon, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Parce que tant que je suis esclave de Pharaon, j'ai un maître. Mais à partir du moment où je suis libre, je peux décider de qui est mon maître. Et donc, toute la deuxième partie de Rosh Hashanah sert à quoi ? Eh bien, sert à ce qu'on fait, en hébreu, on dit « Le'amlich et akadosh baruch ». On va couronner Dieu, c'est-à-dire qu'on le couronne. On fait de lui notre patron. On accepte que Dieu soit le patron. C'est la deuxième partie de Rosh Hashanah. Quelqu'un m'a demandé, on me demande chaque année, à quoi faut-il penser pendant les prières de Rosh Hashanah ? C'est quoi les kavanotes qu'on doit avoir ? Alors pourquoi quand on sonne du shofar pendant les slichot, on est debout ? Deux secondes, j'y arrive. Et on me demande souvent à quoi il faut penser à Rosh Hashanah. Réponse, eh bien, il faut penser à ce qui a marqué dans le sidour. Oui, je sais que c'est révolutionnaire, mais il faut penser à ce qui a marqué. Or, il y a marqué quoi ? Attendez, deux secondes. Yom HaZikaron et Yom HaDin, ça viendra dans deux secondes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pourquoi je peux maintenant couronner Akadosh Baruch Hu ? Bien parce que je suis libre, je choisis que c'est lui mon patron. Et tout le contenu des textes de Rosh Hashanah parle de Amlachat Hashem, parle de couronnement de Dieu. Eh bien, ça tombe bien alors. Il y a une deuxième série de sonneries du shofar. Quelle est la deuxième raison pour laquelle on sonnait du shofar dans la Torah, dans le Tanakh ? Quand est-ce qu'on sonne du shofar ? Il y a le Yovel, on a dit, mais il y a une autre raison. Lorsqu'on couronnait des rois, on sonnait du shofar. On lui met de l'huile d'onction, on sonne le shofar et on dit « Yehi HaMelech Shlomo ». Donc ça veut dire que nous, on sonne du shofar, la deuxième série de sonneries, c'est pour couronner Dieu, tout simplement. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi on sonne du shofar alors debout pendant les slichot. Ah, ça n'a rien à voir. Le shofar des slichot n'a absolument rien à voir avec le shofar de Rosh Hashanah. Le shofar des slichot a vocation de te réveiller. Ouhou yesheni mishnatrem vakitsu mitardematrem. Le rôle du shofar des slichot, c'est justement de te réveiller et de te mettre debout. Mais pourquoi ? Pour faire tes shuvah. Ça n'a rien à voir. Donc je reviens à mon Rosh Hashanah. On a dit, c'est la fête de la liberté individuelle. Je suis libre et je peux donc me libérer par l'entente du shofar. D'ailleurs, les amis, il y a une machloket. Une machloket entre le Rambam et Tosfot, Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'il faut faire comme bracha avant la sonnerie du shofar ? Est-ce qu'il faut dire Lishmoa kol shofar ? Ou est-ce qu'il faut dire Alt kiat shofar ? Est-ce que la bracha, elle, donc la mitzvah, c'est d'entendre le shofar ? Ou est-ce que c'est de sonner du shofar ? Le Rambam dit Lishmoa, Rabbeinu Tam dit Litkoa. Pour le Rambam, il faut entendre, pour Rabbeinu Tam, il faut sonner. Eh bien, vous comprenez qu'en fait, ça dépend de quelle sonnerie on parle. Les premières sonneries servant à me libérer, il faut entendre. Les secondes sonneries, où elles sont là pour couronner Dieu, il faut sonner. Voilà les deux premiers éléments, les deux premiers éléments de Rosh Hashanah. La liberté qui me permet de choisir et de couronner Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui va expliquer d'ailleurs, eh bien, l'aberration qu'on a évoquée en début de cours. Cette aberration de dire que ce qui est appelé le septième, c'est le début de l'année. À Machloket, entre le Rambam et Rabbeinu Tam. D'accord ? Bekitsour, donc, cette aberration de dire que Rosh Hashanah, le début de l'année, c'est le septième mois. Les amis, que les choses soient bien claires. Le premier mois de l'année pour le peuple juif, c'est Nissan. Le début de l'année, pour nous, c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est le début de l'année. Moi, chaque année, je fais un repas de fête le premier Nissan. C'est le début de l'année. Mais quand on regarde dans le traité de Rosh Hashanah, dans la Mishnah, on va nous dire qu'il y a quatre débuts d'année. Arba Rosh Hashanim Hem. Ben oui, en fait, ça dépend à qui on parle. Il y a le début de l'année des arbres, à Tu Bishvat. Il y a le début de l'année pour compter les âges des animaux qu'on va amener au Beth Amikdash, premier Elul. Il y a le Rosh Hashanah. Eh ben, tu vois, il a fait merde. Tov Shekivanti. Il y a le premier Nissan qui est appelé dans la Mishnah Rosh Hashanah la Melachim. Quoi, les cendriers du chauffard à la fin des Slichot. Mais ça, c'est pour nous réveiller, on a dit. OK ? Bekitsour, Rosh Hashanah des arbres, Tu Bishvat, Rosh Hashanah des animaux pour Maasar Behema en Elul, le premier Nissan, Rosh Hashanah pour les rois, et premier Tishré, Rosh Hashanah pour les années, la Shemitah, le Yovel. Mais attendez, la Gemara va aller plus loin et va dire non, 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 en Tishré, c'est aussi le Rosh Hashanah des rois. En Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois d'Israël. Et en Tishré, c'est le Rosh Hashanah des rois du monde. Les amis, Charles III, le roi d'Angleterre, dans une semaine, on lui comptera une deuxième année de règne, d'après la Halakha. Tishré, Rosh Hashanah des rois du monde. Alors là, les amis, mais qui est le roi du monde par excellence ? Eh bien, le roi du monde par excellence, c'est Ribono Shel Olam. Donc, en fait, quand on dit que c'est Rosh Hashanah, ce n'est absolument pas notre Rosh Hashanah à nous, puisque nous, c'est en Nissan. C'est son Rosh Hashanah à lui. Ça va faire, dans une semaine, 5783 ans qu'il est le roi, que nous le couronnons notre roi. Ainsi donc, Rosh Hashanah, ce n'est pas pour nous que c'est le début, c'est pour lui qu'on rajoute une nouvelle année de règne. On le couronne. Donc, la première série de chauffards pour la libération, la deuxième pour couronner Akadosh Baruch Hu. Et la troisième, alors, dans tout ça. Et la troisième sonnerie de chauffard, celle qu'on fait juste à la fin, à quoi sert-elle ? Mes amis, la troisième sonnerie du chauffard, elle sert à quelque chose de fondamental. Mais avant de répondre à cela, il y a deux questions qui ont été posées. Mais alors pourquoi Yom Hadin ? Et pourquoi Yom HaZikaron ? Les amis, Yom Hadin, bien sûr que c'est Yom Hadin, parce que ça ne pouvait pas être hier. Tant que je n'ai pas décidé que Dieu c'était mon patron, il ne peut pas me juger. Tant que je suis esclave, je ne suis pas responsable de mes actes. Donc évidemment, c'est Yom HaDin. Et vous savez quoi ? C'est un Yom HaDin incroyablement intéressant. puisque sur quoi Dieu me juge? Il ne peut pas me juger sur toute l'année qui vient de s'écouler, parce que j'étais esclave. Il ne peut pas me juger sur l'année qui va s'écouler, bah parce qu'elle ne s'est pas encore écoulée, j'ai encore rien fait. Alors, il me juge sur quoi? Sur maintenant. Il me juge sur mes intentions, mes actions, Berosh Hashanah. Donc, il n'y a pas de quoi être en rasra. Il n'y a pas de quoi être en stress de tout ce que j'ai fait pendant l'année. Il me juge sur maintenant, sur les 6 heures qui viennent de s'écouler. Comment est-ce que je peux déjà être un pourri en 6 heures? Alors, peut-être que toi, oui, mais moi, non, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive à Rosh Hashanah, nous dit Rabbi Yaakov Baal HaTourim, le tour. Il nous dit, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on s'habille de blanc et on est Bessimcha. Dans les autres nations du monde, quand tu arrives au tribunal, tu es en stress. Mais nous, on n'est pas en stress parce qu'on sait qu'on va sortir Zakai Badin. On sait qu'on va sortir bien parce qu'on n'a encore rien fait. Et comme je me présente Badin, alors c'est Yom HaZikaron. Parce que Akadosh Baruch Hu se souvient de moi. J'ai une place dans son monde. Et là encore, c'est fondamentalement joyeux de savoir que j'ai un rôle à jouer. Alors, fier de tout cela et armé de toutes ces réalités, eh bien, je peux aborder la troisième sonnerie, la troisième série de sonneries, la dernière, celle du Kaddish, celle de la fin de la Tfila. Si les premières devaient me libérer et les secondes devaient couronner Dieu, et si les sonneries des Slichot doivent me réveiller, la dernière série de sonneries de Rosh Hashanah n'est pas pour moi. À Rosh Hashanah, on va parler de la Akedat Yitzhak. Ce n'est pas la raison de la fête, mais ça s'est passé à Rosh Hashanah, donc évidemment, c'est lié. Akedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de sacrifier Yitzhak. On est libre depuis le précédent Rosh Hashanah. Donc c'est un peu... Hein? Évidemment qu'on est libre depuis le précédent Rosh Hashanah, bien sûr. C'est pour ça que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom HaKippurim, à Seret Yom HaTshuva, on va te dire, mon ami, il y a eu Rosh Hashanah l'année dernière. Donc à Yom Kippour, on va oui passer en revue toute ton année. Mais Rosh Hashanah, ça ouvre une nouvelle page. Yom Kippour, on va revenir sur ce que tu as fait l'année. Et entre parenthèses, ça nous laisse rêveur parce que ça veut dire que quoi? À qui appartiennent les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom HaKippurim? À quelle année ils appartiennent? S'ils appartiennent à la nouvelle année, parce qu'on a commencé Rosh Hashanah, alors comment ça se fait que je parle de ce qui s'est passé derrière? S'ils appartiennent à la dernière année, alors comment ça se fait que ça commence avec Rosh Hashanah? Et donc ce sont 10 jours qui sont hors du temps. Et c'est pourquoi ce sont 10 jours qui sont tellement propices à la Teshuvah. Parce qu'elles sont complètement à l'extérieur de tout. En tout cas, je reviens à ma Akedat Yitzhak. Kadosh Baruch Hu demande à Avraham de sacrifier Yitzhak. Avraham a toutes les raisons du monde de ne pas accepter. Oui, exactement. Nahon, il regarde ta conduite 6 heures. C'est peut-être 12 heures, hein, j'exagère. C'est depuis l'entrée de Rosh Hashanah. Depuis la veille au soir. Il regarde comment tu as mangé les simanim. Il regarde comment tu as kiffé avec tes enfants pendant le repas de Shabbat de Rosh Hashanah. Il regarde comment tu t'es présenté à la tefila. Ouais, voilà, s'il regarde. Voilà, 12 heures. Franchement, c'est gérable, hein, 12 heures. Les slichot, elles ne sont pas à Rosh Hashanah. Vous aurez remarqué qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de slichot. Zéro slichot à Rosh Hashanah. On fait les slichot en Elul. Ah oui, mais Elul, ça vient conclure l'année. Très bien. Donc à Elul, je fais un récap de tout ce que j'ai fait depuis le dernier Rosh Hashanah. Ça oui. Mais pas Rosh Hashanah lui-même. D'accord? Bekitsour, Vous ne voulez pas me laisser dire ce qui s'est passé dans Akedat Yitzhak. Hein, Abraham avait toutes les raisons du monde de refuser. Les slichot sont une préparation à Kippour, pas à Rosh Hashanah. Je vous rappelle que les slichot, on ne les arrête pas à Rosh Hashanah. On continue après Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et à Yom Kippour elle-même, on fait les slichot. Donc, les slichot ne sont pas en prévision de Rosh Hashanah, mais de Kippour. Donc, ça n'a rien à voir. On va réessayer. Donc, Abraham avait toutes les raisons du monde de ne pas sacrifier Yitzhak. Il aurait pu lui dire à Dieu, mais enfin, tu m'avais promis que j'aurais une descendance, mais tu m'avais promis que ce serait par Yitzhak, mais tu m'as promis qu'on aurait une grande descendance. Abraham fait la volonté divine. Et il amène Yitzhak sur le misbeur. Au moment fatidique où il sort le couteau, vous connaissez l'histoire, l'ange est arrivé et lui dit Abraham, Abraham, al tishlach yadecha el anar. Ce qu'on sait moins, c'est ce qui a marqué dans le Midrash Tanhuma. Que Abraham a répondu à l'ange et lui a dit, mais tu es qui toi? Tu es qui toi? Et l'ange lui a dit, bah, je suis un ange. Il dit, mais qui t'a envoyé? Il dit, bah, le patron. Et Abraham lui a répondu à l'ange, écoute-moi bien, ange. Quand Dieu a voulu que je sacrifie Yitzhak, il est venu me le dire en personne. S'il veut que j'enlève Yitzhak du Misbéach, il viendra en personne. Je ne parle pas avec les secrétaires. Alors, il est parti. Et Dieu a envoyé un deuxième ange. Et Abraham l'a rejeté, le deuxième ange aussi. Il a dit, tant que Dieu ne vient pas, je ne pars pas. Et donc, Dieu arrive. Le Midrash nous dit que Dieu dit à Abraham, d'Aber, parle. À ce moment-là, Abraham lui dit, tu te rappelles, tu m'as promis 1, 2, 3, 4, 5. Et quand tu m'as dit de sacrifier Yitzhak, ça remettait en cause les 1, 2, 3, 4, 5. Et Dieu lui dit, oui, effectivement. Il dit, Nachon, j'aurais pu avoir toutes les raisons du monde de dire non, mais je me suis contrôlé et je n'ai rien dit et j'ai fait ta volonté. Et Dieu lui dit, effectivement. Et là, Abraham dit à Dieu, alors tu sais quoi? Dans l'avenir, lorsque les enfants de Yitzhak, nous, on partira un petit peu en cacahuète et on fera n'importe quoi et que tu voudras nous faire quelque chose, eh bien, toi aussi, tu te retiendras et tu ne nous feras rien. Et Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, binishbati neum Hashem, je te promets. Et alors qu'Abraham pense que l'histoire est terminée, Dieu lui dit, hop, 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 Abraham, et qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie? Pour tous ceux qui m'ont posé la question, c'est quoi Yom HaZikaron? Qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie? Et Abraham, dans le Midrash, lui dit, mais comment ça tu oublies? En shichecha lifne kisekevodecha, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'oublies pas? Et Dieu lui dit, qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie? Qu'est-ce qu'on fait si jamais j'oublie la promesse que je viens de te faire, que quoi qu'il arrive, je garderai le peuple juif? Et Abraham ne sait pas répondre. Dieu lui dit, tourne-toi. Et là, il se tourne et il voit un bélier pris dans les buissons. Et Dieu dit à Abraham, tu diras à Yitzhak de dire à ses enfants, dans toutes les générations, que pour me rappeler ma promesse, le jour où je fais Yom Adin, vous prendrez la corne du bélier et vous sonnerez pour me rappeler ma promesse. Mazé Yom HaZikaron, c'est la troisième série de sonneries, celle de la fin de la Tfila. On ne sonne pas pour nous, mais on sonne pour Ribono Shel Olam, pour Kivyachol lui rappeler la promesse qu'il a faite à Abraham. Rosh Hashanah, c'est donc la fête de la libération. La fête de la libération individuelle qui me permet, eh bien, tout simplement, d'être celui qui va pouvoir choisir mon maître. Et je choisis Akadosh Baruch Hu. Une fois que j'ai choisi Akadosh Baruch Hu, que je l'ai couronné, alors je me mets sous son jugement. Et il me juge. Mais au moment où il me juge, je lui rappelle la promesse qu'il a faite à Abraham. Ainsi donc, Rosh Hashanah est appelé Yom Adin, Yom HaZikaron, Yom Teruah, Ve'ayom Hazeh. Rosh Hashanah, c'est le moment où on décide de lier notre identité avec la volonté divine. Et donc, en cela, eh bien, c'est le moment où on peut véritablement commencer quelque chose. Ce n'est pas le jour où on va terminer un cycle, mais c'est le jour où on commence notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, vous pouvez rallumer vos micros et on est parti pour les questions. Nahon, c'est ça, tu m'as dit 10 minutes avant.
C'est ça, celui qui a des questions, sinon continue le cours. Alors, si quelqu'un a
Je peux poser une question ?
Oui, bien sûr.
Dans quel texte on nous dit qu'on est libéré de l'esclavage
Dans le Talmud.
C'est pas dans la Torah, parce qu'on est en train de travailler sur des textes de la Torah, et tout d'un coup on nous cite la Talmud.
Il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est alors dans le Talmud, c'est dans le traité de Rosh Hashanah, la page 10 versos en bas de la page et 11.
C'est vrai, mais moi je veux un texte biblique.
Ah oui, mais attends, deux secondes. Maintenant, n'oubliez pas que dans la Torah, on va apprendre des halachot de la Torah, mais tout n'est pas inscrit dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle Torah Shebichtav et Torah Shebealpé. Et donc, non, il n'y a pas de texte dans la Torah qui nous dit que c'est la fin de l'esclavage. C'est la tradition orale qui nous le dit. Mais pour nous, le peuple juif, la tradition orale fait autant force de loi que la tradition écrite. Nous ne sommes pas karaïtes, nous ne nous fions pas que au texte, c'est et l'un et l'autre.
Et comment sont-ils arrivés à ça ? Qu'on a été libérés avant d'être vraiment libérés physiquement ?
Encore une fois, comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? C'est la réalité.
Comment la Gemara est arrivée à ça ?
Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une tradition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui sont sortis d'Égypte, ça leur est arrivé. Les gens qui ont été libérés en Égypte, ça leur est arrivé. Ils ont dit à leurs enfants, qui ont dit à leurs petits-enfants, qui ont transmis de génération en génération, que c'est à cette date-là qu'on a été libérés de l'esclavage. Et donc, la Guémara va le mettre par écrit, mais c'est une tradition orale qui se transmettait de génération en génération.
Merci.
Rav, j'ai une question.
Oui.
En clair, on dit que le Yovel, vous avez dit que le Yovel, effectivement, c'est la libération. Maintenant, il y a une question qui se pose. À partir de la sortie d'Adam Harishon du Gan Eden jusqu'à au moins Akedat Israël, voire à la sortie d'Égypte, il y a eu des Rosh Hashanah. Et c'était pour libérer qui ? Puisqu'on dit que Rosh Hashanah, les noms qu'il a, c'est entre autres Yom Teruah. Donc vous entendrez des sonneries ce jour-là. Mais ça veut dire que depuis la création du monde, l'homme, il a entendu des sonneries. Mais de quelles sonneries on parle ?
Alors, ça ne vous aura pas échappé que tant que la Torah n'a pas été donnée, il n'y a aucune obligation de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que toute la réalité de Yom Teruah, Yom HaZikaron, Yom Hadin ne commence qu'à partir du moment où il y a eu le dévoilement au Mont Sinaï. C'est-à-dire que lorsqu'on a été libéré de Pharaon, ça n'est pas encore inscrit dans la Halakha. D'accord ? Donc, depuis Adam Harishon, on couronne Akadosh Baruch Hu, mais ça n'est pas d'un point de vue Torah. C'est les hommes qui ont décidé de couronner Dieu. Nous, au niveau de la Torah, eh bien, on devient obligé depuis le don de la Torah. Donc, ce n'est pas par rapport à Adam Harishon. Oui, Yaakov.
Yaakov, juste avant toi, il y avait M. Messan qui demandait à poser une question.
Oui, je vais attacher à Kavod Arav. Je reviens un peu en arrière. Vous avez dit que quand il y a une fête, c'est toujours lié au peuple Israël. Il me semble que le 14 au 15 Tichiri aussi, nous avons perdu nos aïeux, quoi, à cause de la faute du veau d'or, ils ont perdu la Shérina. Il me semble que la nuit est revenue au 15 Tichiri. C'est pourquoi nous fêtons la fête de Soukot dans la cabane, parce que la Maloquette dit que c'est la fête des nuées.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison que le 15 Tichri, c'est également le jour où les nuées, Anané Kavod, sont revenues après la fête du Vaudor. Vous avez tout à fait raison. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas cité ? Parce que ça ne peut pas être la raison de la fête de Soukhot. puisque les nuées, c'est très important, mais les nuées n'ont rien à voir avec des soukottes au niveau de la halakha. C'est-à-dire que je veux bien qu'on me dise c'est le moment où la shrina est revenue, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'on doit dormir dans des cabanes. Ça n'a rien à voir. Au contraire, dans le désert, on était dans des tentes. Donc, à la limite, on aurait dû faire la fête des tentes. Et c'est pour ça que j'ai expliqué la dimension de Soukhot avec les Soukhot de la guerre, tel que c'est marqué dans le prophète Samuel.
Oui.
Alors, oui. Moi, ma question, c'est comment on peut concilier ce qu'on a dit, que c'est un jour de joie, etc. Ce n'est pas le Hasra, mais avec le fait qu'on ne dit pas le Hallel et qu'on dit Ematayom dans la Gemara, la crainte alors, du jour.
C'est pour ça que quand j'ai dit qu'on ne disait pas le Hallel, j'ai dit que c'est une des raisons pour lesquelles on ne dit pas le Hallel. C'est-à-dire, un, parce qu'on n'est pas encore au niveau national libre, donc on ne peut pas dire le Hallel parce qu'il y a Shmalchut chez le Pharaon qui est sur nous. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose, c'est Emat Amalchut et Emat Adin. J'ai été libéré et je vais me faire juger, certes sur 12 heures, mais il y a quand même une dimension, pas de parade, mais de wow. Et quand tu es face à la Malchut, tu ne peux pas être en mode Yalla, Allelu, 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 parce que tu es face à ce qu'on appelle Yirat HaKavod, Yirat HaRomemut. Yirat HaRomemut, ce n'est pas quelque chose de triste. C'est quand on est bouche bée, on dit « je suis bouche bée ». Genre, c'est tellement énorme que je ne peux pas dire quoi que ce soit. Donc, en fait, si tu veux, le non Hallel de Rosh Hashanah, c'est d'un côté qu'on n'est pas encore libre au niveau national et d'un autre côté, parce qu'on est face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et ça nous laisse bouche bée.
Il y a une question de Meira Berliner Schnorr.
Oui, enfin, je voudrais savoir quelle est la valeur de Midrash Tanhum, en général des Midrashim? C'est toujours des histoires assez incroyables. Est-ce que ça a une valeur lithatique? Est-ce que c'est une allégorie ou qu'est-ce que c'est un Midrash?
Alors, les Midrashim, qu'ils soient Midrash Rabba, Tanhuma ou autre, eh bien, j'ai l'habitude de dire que c'est la moitié d'un Drash, puisque c'est un Midrash. Mais au-delà de la plaisanterie, le Midrash n'est pas là pour nous raconter forcément une indication historique, mais est là pour nous expliquer quel est le sens profond du verset, des fois en rajoutant des dialogues et des fois par des allégories. En fait, le Midrash, c'est ce que le prophète transmettait lorsqu'il parlait, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la prophétie, donc on est obligé de passer par un langage qui passe par allusion.
Et c'est qui écrit les Midrashim? C'est des
Hazal? Ça dépend des Midrashim.
Mais c'est Hazal?
C'est à l'époque, ça a été mis par écrit à l'époque voilà, de la Mishnah, plus ou moins.
Donc ça a une valeur, c'est pas...
Oui. Encore une fois, il y a des Midrashim qui font plus autorité que d'autres. Si vous voulez, les Midrash Rabba, Tanhuma, Yalkut Shimoni, ils sont beaucoup plus anciens et donc ils ont plus de valeur. Il y a des Midrashim qui sont plus tardifs, qui sont intéressants, mais qui ont moins force d'autorité que les précédents.
Merci.
Alors, question de Dan Zermati.
Oui, bonjour Rav. J'ai une question chronologique. Quand vous dites que c'est à la fin de l'esclavage, on devient citoyen à Rosh Hashanah.
Oui.
Donc, au bout de combien, ça correspond à quelle date? Et après, on est libéré quand on fait Pessah, donc on sort d'Égypte. Il se passe combien de temps entre les deux?
Alors, voilà, la date, vous me parlez en années.
Oui.
Bah, ça va dépendre en fait de quel calendrier on se base. Si on dit qu'on est sorti d'Égypte en 2248 depuis Adam Arishon, alors eh bien, c'est soit 6 mois avant, soit 1 an et demi avant. C'est une marloquette entre le Ramban et Sforno. Est-ce que cette libération, elle c'est-à-dire le Tishrei juste avant Nissan, ou alors 1 an et demi avant?
Ah ok, merci. Donc c'est une période très courte.
Il me semble que vous ne m'avez pas répondu sur Ayom Harat Olam.
Alors,
Ayom Harat Olam, j'avais demandé. Il me semble que vous n'avez pas répondu.
Exactement. Je vous ai pas... Oui, vous ne m'avez pas répondu. Je n'ai pas répondu, excusez-moi. Effectivement, Ayom Harat Olam. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Ayom Harat Olam? La Harot, ça veut dire tomber enceinte. Donc, le monde n'est pas né à Rosh Hashanah, il est tombé enceinte, entre guillemets. Donc, c'est quelque part, quelque chose de très important, puisque la naissance, c'est le moment où ça commence, mais il n'y aurait pas de naissance s'il n'y avait pas de fécondation. Donc, si on doit correspondre à cela, eh bien, Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu a pensé le monde. Et à Nissan, c'est le jour où il l'a sorti Befoal. D'accord ?
Rav Fison, question de Gabriel oui. Lévy.
Rav, ce que vous avez dit au niveau de la malchoute sur le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça me rappelle quelque chose que j'avais étudié dans la Gemara de Rosh Hashanah à la Medalef. On dit que le deuxième jour de la semaine, le lundi, on dit donc le mizmor Gadol Hashem Umulal Meod Hashem Shechilek Maasav et Malach Alein. C'est-à-dire que le deuxième jour où a été créée la Machloket, comme c'est écrit dans le Midrash, c'est aussi le jour dans lequel se dévoile la Malchut. C'est grâce à la Malchut, justement cette Chalouka, Alze Shechilek Maasav, que peut se dévoiler la Malchut. Il y a un rapport, vous pensez, entre le deuxième jour de Rosh Hashanah qui serait pas du coup la deuxième jour de la création.
Si vous voulez, il n'y a pas de deuxième jour de Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est ce qu'on appelle Yom Arirta. C'est un grand jour. Il n'y a pas premier et deuxième jour. C'est une grande journée de 48 heures. Mais effectivement, c'est ce que vous dites est très, très fort.
Question de Benjamin.
Ken Boker Tov, et d'abord merci beaucoup et Arve Fison et Kolmache Limatotanoyom. Et voilà, est-ce que j'ai bien compris quand vous avez parlé, enfin, le malheur de votre chiot, des trois sonneries, donc, des trois sonneries de Rosh Hashanah, qui forment la journée, le malheur de la prière? Ok, et chacun avec chacune des sonneries avec sa signification. Quel est le rapport entre ces trois sonneries et les trois sonneries qui se trouvent dans la Amida elle-même, c'est-à-dire Zichronot, Malchuyot et Shofarot? Est-ce qu'il y a un parallèle entre ces deux groupes, les trois sonneries qui forment dont vous avez parlé, et les trois sonneries qui sont au milieu de la Amida? Est-ce que leurs significations sont parallèles?
Les significations sont parallèles, elles ont chacun une autre dimension. Malchuyot, c'est pour, comme ce qui est dit, l'amlich et akadosh bohon. Zichronot, c'est pour que nous soit conscient que lorsque on a fait de Dieu notre roi, il se souvient de nous. Veshofarot, c'est pour montrer à quel point le shofar a une dimension aussi métaphysique. Mais ça, on n'en a pas parlé dans notre cours aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup.
Je vois qu'il est 10h. Toda Rabba, Rav Fison. Chag Sameach, Rav. Bezrat Hashem. Chag
Sameach. Toda Rabba.
Merci beaucoup.
Toda Rabba. Chag Sameach.
Toda Rabba.